Est-ce qu'il y a des questions, des réactions? J'ai vu une main se lever.
Alors, je m'appelle Cécile Laval et je suis ingénieure. Je travaille au conseil de développement de Rennes, en fait, conseil de développement du pays de l'agglomération de Rennes. On est sur une thématique justement tertiaire de bureau, avec rénovation énergétique. Donc, se poser la question, comment on peut faire pour que la rénovation énergétique se lance dans le tertiaire de bureau, on est confronté à différents acteurs. Et la thématique comportement est difficile à intégrer. Alors moi-même, forcément, avec mon expérience, j'ai vécu à l'étranger, en Suède, où je travaillais à monter des programmes entre entreprises et chercheurs. Donc c'était très intéressant parce que ce n'est pas toujours les mêmes discours et il faut qu'ils arrivent à comprendre l'intérêt de travailler ensemble. Aujourd'hui, si je viens aussi, c'est parce que je suis intéressée par cette thématique de sociologie de l'énergie et à travailler justement en chiffres sur cette thématique pour après. Et c'est vrai que le comportement, c'est très dur parce que ça ne rapporte pas, on ne voit pas le bénéfice, enfin, les acteurs autour de la table, on ne voit pas le bénéfice. Enfin, ça va être ridicule d'apporter un petit peu d'action. C'est des petites actions, il faut des grandes actions avec des chiffres, combien ça rapportera. On revient finalement sur ce qui a été dit. J'avais juste une question par rapport à l'accompagnement, parce que c'est quelque chose qui manque aussi pour les usagers. Est-ce que quand ils ont lancé cette tour en 2009, il y a eu un accompagnement des usagers? C'est-à-dire quand on arrive dans une maison, on met un certain temps à s'approprier sa propre maison, son appartement, savoir comment je règle le chauffage, comment j'aère, à quel moment, etc. À soi-même, on a besoin de s'approprier sa maison. Et ce qu'on dit de plus en plus aujourd'hui, c'est bah, finalement... un bureau, c'est pareil, surtout s'il a un côté énergie positive, donc à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il faut savoir l'utiliser. Est-ce qu'il y a eu cette...
Enfin, c'est là où c'est vraiment dommage. Moi, je suis arrivée bien après la construction de la tour, mais il n'y a eu aucun accompagnement, aucune communication. En fait, les gens sont arrivés et ils ont été un peu livrés à eux-mêmes. Ce qui fait qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites, ne serait-ce qu'au niveau de l'aménagement. Enfin, c'est une tour qui avait été conçue, par exemple, pour faire que des open space. Et il y a des étages où ils ont décidé de cloisonner et du coup ça crée des problèmes parce qu'ils ont mis les cloisons pas forcément au bon endroit, ce qui fait que les gens ont des courants d'air dans le dos parce que l'air est utilisé par le haut, etc. Donc il n'y a pas eu d'accompagnement et ça c'est quelque chose que moi je trouve indispensable aussi parce que effectivement les gens ont besoin ne serait-ce que de se rendre compte, parce qu'il y avait aussi ce décalage, les gens disaient mais en fait on ne voit pas que c'est un bâtiment durable. Donc déjà, si on leur avait expliqué, on leur avait dit, ben voilà, le bâtiment, ce qu'il consomme, pourquoi il consomme si peu, qu'est-ce qu'il y a... Et aussi, pour du coup, qu'ils se sentent un petit peu valorisés, qu'ils se disent, ah ouais, je suis quand même dans un bâtiment... En fait, c'est pas visible. Enfin, les panneaux photovoltaïques sont sur le toit, c'est pas visible. Donc du coup, il n'y a pas eu d'accompagnement, ce qui fait que voilà, il y a des petites choses qui auraient été facilement évitées s'il y avait eu un accompagnement. Mais là encore, je pense que c'est parce qu'on dit, oui, il faut le faire, et puis après, ben, quand on est lancé, enfin voilà, tout va vite, il faut, enfin, finalement on ne prend pas le temps de faire cet accompagnement, on se dit bon bah, on fera sans quoi. Alors que... ouais. Là aussi il y a un décalage, c'est pareil, on s'est dit il faut mettre des capteurs partout, ça va être super, mais sauf que pour analyser ça, c'est l'horreur. Enfin, moi j'ai plongé beaucoup dans la base de données et c'est super compliqué, il y a des capteurs qui ne fonctionnent pas, il y a plein de choses qui... Et du coup, pour faire un retour aux usagers, moi, ça faisait partie de mon programme de recherche. Je voulais faire des feedbacks qui soient appropriés, en fait, en fonction des comportements des gens. Parce qu'avoir un feedback sur toute la tour, c'est pas forcément pertinent. Moi, je voulais faire quelque chose de plus précis. Mais là aussi, finalement, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations, mais qui sont pas exploitées. Enfin, qui sont très difficilement exploitées.
Alors, il y a monsieur, mademoiselle, Stéphane, Viviane. Bon, monsieur, alors...
Alors, je suis Gaël Goulet, je suis également ingénieur en environnement. J'ai travaillé au sein d'une agence d'architecture que j'ai créée il y a quelques années. Et je finis par ailleurs un doctorat en sociologie. Donc, je connais un peu les deux cultures, ingénieur d'une part et sociologue. Et c'était très très intéressant, je sais pas ce que vous avez dit. Parce que d'un côté, quand on regarde du côté de l'ingénieur, on essaie de faire le système parfait, qui laisse aucune marge de manœuvre, aucune variance aux acteurs. Et à l'inverse, vous parlez de satisfaction, de bonheur, parce que moi, c'est le sujet de ma thèse, en fait, c'est le bien-être des Français. Je suis comparaison interculturelle du bien-être des Français. Et typiquement, ce qu'on sait, c'est que quand on laisse un tout petit peu de marge de liberté aux gens, les gens se sentent mieux. Donc, en fait, je pense que si on regarde le problème de développement durable à la fois dans cette dimension environnementale et sociale, toute la question que vous avez explicité, c'était... quelle est la variance idéale qu'on laisse entre un système qui permettrait... Parce que nous, on nous dit, bon, bah, pour avoir un bon bâtiment, il ne faut pas que les fenêtres s'ouvrent, sinon les usagers font n'importe quoi. Ça, c'est du point de vue de l'ingénieur. Ils font n'importe quoi, ça va consommer beaucoup plus au final. Typiquement, ce que vous avez dit là sur les cloisonnements, puis les amis qui ont travaillé sur le concombre à Londres, qu'on appelle le gherkin, ils ont fait toute une modélisation incroyable, et les gens ont tout cloisonné les espaces. Du coup, ils devaient consommer 30% en moins, ils consomment 30% en plus. Oui, ça, c'est en termes de comportement. Et je pense que la question vraiment elle est là. Comment on construit un système, quelle marge de manœuvre on laisse pour faire à la fois un système qui soit performant environnementalement et qui puisse laisser un peu de marge aux acteurs pour qu'ils se sentent libres et au final qu'ils se sentent bien. Ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Alors, j'avais une autre remarque, vous avez parlé au moment d'une corrélation entre le sentiment de justice sociale et le sentiment d'engagement. C'était deux, c'est des questionnements que vous posiez aux gens, n'est-ce pas? Alors ça, moi j'ai vu ça dans les recherches que j'ai pu faire, c'est des choses qui sont un petit peu dangereuses parce qu'on corrèle deux choses qui sont subjectives. Et donc on peut mesurer deux facteurs de réponse qui sont absolument, vous voyez, qui se répondent à l'autre. C'est pour ça que c'est plus intéressant de comparer quelque chose de subjectif et quelque chose d'objectif. Sinon c'est un peu comme de mesurer des vagues d'un bateau, vous voyez, c'est ce que je veux dire. Vous avez quelqu'un qui va dire tout le temps qu'il se sent bien et peu importe, vous allez dire bon bah moi je me sens bien dans ma famille, je me sens bien au boulot, donc bien se sentir au boulot, ça fait qu'on n'est pas forcément un lien, c'est juste que les gens répondent de la même manière à des questions subjectives. Ça c'est tout.
Je réponds de manière courte, ouais, pour laisser après les...
Oui, ben ça, mais en fait, on a des techniques, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a des techniques statistiques qui nous permettent de voir si les choses sont liées. Et en fait, nos méthodes d'enquête en psychologie sociale, c'est que des mesures subjectives. On leur demande tout le temps, eux, leur perception, leur ressenti, même sur des aspects physiques.
Ça fait bon parler. Du coup, j'ai une dernière question. Comment vous pensez que vous auriez pu éviter, là, il y a un énorme dysfonctionnement organisationnel, qu'est-ce que vous auriez pu... Vous, de votre point de vue, est-ce que vous pensez que vous auriez pu changer quelque chose?
En fait, je pense que moi, le problème, c'est que, comme je disais, quand je suis arrivée, en plus, le programme était déjà ficelé. Donc, il y avait déjà marqué, moi, j'ai fait mon projet de recherche, il y avait déjà marqué qu'on s'intéresserait aux aspects organisationnels. C'était écrit noir sur blanc. Donc, je pense que ce qu'il aurait fallu, c'est que je puisse avoir un rendez-vous avec le directeur dès le départ pour expliciter ce qui était écrit noir sur blanc, qui me paraissait du coup évident que j'allais aborder ce sujet-là. Il aurait fallu bien, parce que ça se trouve, en fait, il n'a même pas lu. Et du coup, il est tombé des nues quand j'ai abordé ces questions-là. Donc, je pense juste d'avoir plus de relations avec la direction, parce que j'en ai
pas. Alors, du coup, on va prendre plusieurs questions groupées. Donc, il y a une mademoiselle.
Moi, je m'intéresse justement à cette question du contrôle et justement à la population, la question de la population. On sait que pour s'approprier un logement ou un espace, en tout cas, on a un fort sentiment de... Par exemple, le logement, c'est l'expression de l'identité personnelle totale, en fait. Donc, si on met des choses pour contrôler dans le logement, ça va pas marcher. Et là, je suis bien avec la politique. Chose qu'il y avait a priori dans la politique. Est-ce que vous avez pu interroger la représentation et le lien à la domotique, en fait, des usagers? Et est-ce qu'il y a des détournements? Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir des détournements?
Du coup, on prend la question de Stéphane. Il a toujours en tête.
Je suis arrivé, ma mémoire est bonne. J'ai remarqué dans votre discours, parce que vous avez parlé des différents projets qui rencontrent la question privée, publique, de recherche, mais aussi la question de la finalité. On veut prouver que, alors que quelqu'un qui a le truc, qu'est-ce qui se passe, le truc, quoi faire. Mais il y a une ambiguïté dans tout ça. Parce que dans ton discours, je me connais là-dedans, donc c'est pas une accusation du tout, c'est une autre observation, c'est qu'on fait des méthodes pour expliquer, mais on est une finalité aussi. Ta finalité, c'était l'accompagnement. Donc on peut pas dire qu'on n'a pas une finalité, qu'on est complètement concentré sur la méthode qu'on fait. Je pense qu'il y a une plus grande concentration sur l'explication du moment présent, de ce qui se passe, des enjeux que le privé qui lui va avoir, prouvez-nous que notre truc, il est bon, il est certes, et qu'il va bien fonctionner. Alors que nous, on est avant d'aller dehors, on sait ce qui se passe. Mais n'empêche qu'à la fin, on veut des mesures d'accompagnement. une petite question. La confidentialité des données, il y a eu des problèmes. Est-ce que tu peux toujours utiliser ce cas-là pour faire d'autres études de bon calendrier plus tard? Ou est-ce que l'éditiste se dit, oh, c'était nous ça?
Et du coup, Viviane et monsieur, et après on s'arrête là parce que sinon.
Viviane, j'ai une casquette marketing, je m'en fous. En essayant d'introduire ces questions-là, les questions sociologiques, l'usage au sein de l'environnement de l'UDM, auprès du bureau d'études et l'architecte. Et moi, en voyant le titre de notre communication, je pensais extrêmement naïvement qu'enfin un bureau d'études allait intégrer la sociologie. Pour se positionner stratégiquement vis-à-vis de ses clients, pour dire, et y compris, moi je pense qu'on aura vu tout bâtiment durable le jour où on ne fera pas les mêmes usagers. C'est-à-dire où il sera, dès le programme, on aura l'usager et l'usager doit venir auprès du programmiste et ensuite de la co-conception avec le bureau d'études et les architectes. Donc je suis absolument sidérée. Enfin, quelque part, je suis sidérée, on peut se dire qu'ils avaient de quoi se programmer sur. En plus, vous dites sur un marché qui semble difficile, de quoi se positionner en amont pour dire on ne vécu pas comme les autres par rapport aux exigences de votre capital environnemental, de l'éthique environnementale, etc. Et en fait, je passe pour
monsieur.
Je voudrais
dire,
une question. Vous avez interrogé sur leur prise de conscience ou non de l'incorporation du comportement, hypothèse de comportement dans leur code de calcul. Donc en fait, quand on veut optimiser son énergie, vraiment attendre le système et on aura donc les hypothèses de comportement qui vont être d'autant plus, d'autant plus de poids. Donc la question c'est qu'on est en train de créer une sorte de canyon, on optimise dans le canyon, et si on n'est plus dans les normes de comportement dont on fait des hypothèses implicites, en fait, finalement on est en train de réduire. En gros, on est sur un système un peu instable. Donc la question, c'est est-ce qu'il faut comprendre les hypothèses de comportement qui sont inclus dans les codes de calcul, ou est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont voulu simplement montrer qu'il était un bon bâtiment.
Du coup, je commence à répondre dans l'ordre. La première question sur la domotique. Donc oui, en fait, on les a interrogés sur la domotique. Dans l'ensemble, ils ont un peu conscience de ce décalage-là. C'est-à-dire les gens disent, oui, il faut de l'automatisation. Et oui, c'est bien au travail parce qu'on n'a pas forcément envie de s'occuper de tout. Mais en gros, il faut que ce soit automatisé pour les parties communes, pour tout ce qui ne concerne pas directement la personne. Mais il faut laisser la main sur la gestion de son espace de travail. Donc je pense que le compromis idéal, et il y a certaines structures où il y a ça, c'est automatisé, mais l'individu peut avoir une télécommande ou un bouton pour avoir la main. Donc ça permet de limiter les gaspillages grâce à l'automatisme, mais en même temps, il faut que les gens puissent augmenter un peu la température, éteindre la lumière, etc. Ensuite, sur la question de la confidentialité des données, c'est vrai que moi, ça a surtout été problématique quand j'ai voulu communiquer les résultats. Et en fait, c'est vrai que j'aurais aimé pouvoir ensuite diffuser le rapport, etc. Donc ça n'a pas pu être fait. Après, l'avantage que j'ai, c'est que je suis quand même dans le cadre d'une thèse. Une thèse, c'est public. Donc voilà, les travaux, les résultats dans le cadre de la thèse, de toute façon, ça pourra être diffusé. Puis moi, je m'appuie aussi beaucoup parfois sur l'anonymat. En fait, de toute façon, les individus qui répondent, c'est entièrement anonyme. Donc là, moi, je garantis la confidentialité vis-à-vis des personnes qui répondent et de leurs données.
Et tu vas anonymiser la tour ?
Bah, du coup, là, non, je peux pas. Sur la tour, je peux pas. Mais là, les autres structures que j'enquête, il y a plus de bâtiments, il y en a certaines qui m'ont demandé à ce que ce soit anonyme. Parce que j'ai pas parlé de ça, mais j'ai rencontré un peu les mêmes difficultés dans les autres structures. Dès que je leur disais qu'il y avait des questions sur le management ou sur le contexte organisationnel, il y avait des départements RH qui bloquaient, où il y avait. Donc là, il fallait toujours insister sur justement l'anonymat, la confidentialité, etc.
Du coup, après, c'était quoi la dernière question
Ah oui, le positionnement par rapport au marché, effectivement. En fait, je pense que le problème, c'est que. Je pense que ce qui aurait dû être fait, c'est que j'aurais dû être embauchée en tant que salariée normale pour justement utiliser toutes mes connaissances que j'avais déjà de psychologie sociale pour qu'Elitis se positionne sur le marché avec cette plus-value des sciences humaines et sociales. En fait, eux, ils ont un peu voulu le beurre et l'argent du beurre. Ce qu'ils voulaient, c'était ça. C'était qu'on aille répondre à des appels d'offres, qu'on aille faire des offres de services avec l'aspect psychosocial. Mais ils m'ont embauché en thèse. Donc moi, mon objectif, c'était de faire une thèse et de faire une recherche. Et donc là, il y avait un décalage et finalement, ça... C'est pour ça que ça a pas pu être utilisé. Sur la dernière question...
Les hypothèses comportementales dans les modèles,
voilà, c'est ça. Sur la dernière question, du coup, ça n'a pas du tout été fait. parce que là, pour le coup, c'était même pas leur demande, en fait. Leur demande, c'était plutôt d'aller accompagner des bâtiments qui auraient été construits par les bâtisses et d'accompagner les occupants de ces bâtiments, ou alors d'aller voir des bâtiments où il y avait des dysfonctionnements, des inconforts, et de savoir pourquoi, etc. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu, j'ai pas du tout eu cette demande.
Dès l'origine, il y a un décalage entre les
promesses
et les choses. C'est un décalage entre le social qui va être le groupe de personnes qui vivent actuellement et qui connaissent moyenne le comportement qui a été dans le spectacle. Et je pense que la vraie question, c'est la robustesse, donc élargir en fait le spectre des comportements dans les codes de calcul.
En même temps, heureusement qu'ils m'ont pas posé la question, parce que je ne sais pas si j'aurais été capable d'y répondre en fait. Parce que du coup, c'est vrai que ça, c'est. C'est un petit peu ce que je disais au début, c'est-à-dire on a des modèles, mais de là à pouvoir leur dire qu'est-ce qu'il faut que vous intégriez dans vos calculs, dans vos simulations, je ne sais pas trop si ça aurait été dans le temps.
Et juste pour revenir sur ce que disait Stéphane, est-ce que l'accompagnement comme solution au problème, est-ce que c'est quelque chose que tu avais en tête en commençant la thèse ou qui est apparu au fur et à mesure du travail de recherche ?
En fait, en commençant la thèse, moi, je savais que mes objectifs allaient être à la fois, effectivement, d'essayer d'expliquer et de comprendre les comportements, et en même temps, je me disais, repérer là où on peut agir, et là où on peut le faire, accompagner. Donc oui, il y avait quand même cette idée de se dire, si on veut, de toute façon, mettre en place des actions de sensibilisation sur les écologistes, etc., il y avait effectivement cette notion d'accompagnement.
Merci beaucoup, Delphine.